Vous écoutez France Inter, il est 13h. Le journal Frédéric Barrère, bonjour.
Bonjour à tous. Premier week-end avec de vraies soirées, le cap des 30 millions de premières injections franchies, la tentation est forte de s'affranchir du couvre-feu. Plusieurs fêtes illégales organisées notamment à Paris ou à Nice ou tout au long du week-end, Thibault Lefèvre dans un instant. L'immunité de groupe, seul moyen de bloquer la circulation du virus. Il faudra vacciner entre 85 et 90% des adultes et des adolescents, annonce Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement. La pollution s'éloigne encore. C'est la nappe d'hydrocarbures est poussée vers le large. Le gouvernement accuse les voyous de la mer. L'Algérie, dans l'attente des résultats des élections législatives, le gouvernement annonce qu'il va falloir patienter 4 jours. Invité de ce journal, Kader Abderrahim, spécialiste du Maghreb et de l'islamisme. Dans ce journal également, nous reviendrons sur le malaise lors de l'Euro de football hier du joueur danois Christian Eriksen, toujours hospitalisé dans un état stable. Et nous irons à Roland-Garros avant la finale Djokovic, Tsitsipas, cet après-midi. La météo, au beau fixe, Jean-Michel Golinski, à la fin de ce journal.
France Inter.
L'épidémie recule, les contaminations baissent, la vaccination augmente, 30 millions de Français ont donc reçu une première dose, un couvre-feu à 23 heures et en plus, le temps est au beau fixe. Beaucoup de Français ont voulu profiter de ce premier week-end avec des soirées allongées et il y a d'ailleurs eu, hier soir et avant-hier soir, à Paris notamment, plusieurs fêtes illégales en plein air. Bonjour Thibault Lefèvre.
Bonjour Frédéric.
Les Français veulent maintenant rattraper le temps perdu avec le sentiment que l'épidémie est derrière nous alors que le virus est toujours là et bien là.
Oui, avec cette deuxième soirée consécutive de fêtes sur la grande pelouse des Invalides, c'était hier soir au cœur de la capitale. Pas de masque, pas de distanciation sociale et surtout de grandes difficultés pour les forces de l'ordre qui ont dû intervenir peu avant 23h pour faire respecter le couvre-feu. Farida Noir a rencontré deux jeunes participants, Erwin et Cheryl, qui ne supportent donc plus les contraintes sanitaires.
La police, ils sont un peu contre nous ce soir, j'ai l'impression. Nous, on s'amuse, vous voyez. On est tranquille, ça fait un an, on est confinés.
C'est le couvre-feu décalé à 23h. Du coup, ça a réveillé une euphorie parmi nous. Et du coup, on s'est dit, bah, on sort, on profite. Voilà, on en a marre du Covid, c'est tout.
Et les jeunes ne sont pas les seuls à en avoir marre du Covid et à ne pas vraiment respecter le couvre-feu. À Omar est le gérant d'un bar au cœur de Paris.
C'est paradoxal ce qui se passe. Moi, je suis situé à la gare de l'Est, donc j'ai une grosse place devant moi et les rues grouillent de monde jusqu'à pas d'heure. A priori, à la fin du mois, le couvre-feu sera remis en cause. Je vois pas pourquoi on attendrait la fin du mois. C'est pas les 2 semaines là qui feraient en sorte que les hôpitaux seraient vides ou quoi que ce soit. On comprend pas.
Omar ne comprend pas non plus la dérogation dont ont pu bénéficier les spectateurs de Roland-Garros pour suivre vendredi soir après 23h la fin de la demi-finale entre Nadal et Djokovic. Alors que lui sera obligé d'éteindre les écrans de son bar mardi vers 22h45 alors que le match France-Allemagne pour l'entrée en lice des Bleus à l'Euro de football ne sera pas terminé.
Merci Thibault Lefèvre. Et malgré ce relâchement, le seul moyen pour vaincre l'épidémie est de parvenir à une immunité de groupe. Le cap des 30 millions de Français ayant reçu une première dose de vaccin a donc été franchi hier. Mais si ce taux de vaccination est élevé, on est encore loin de la fameuse immunité collective qui empêcherait la circulation du virus. Pour cela, il faut encore faire des efforts, vacciner les personnes à risque qui n'ont pas encore été vaccinées. Et dans le même temps, la vaccination des mineurs de plus de 12 ans doit débuter après-demain, mardi. Le professeur Alain Fischer, président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale avec Sandy Dauphin.
On progresse, et c'est bien, mais néanmoins, pour obtenir une immunité collective, il faudrait que, en gros, 75, peut-être 80% de l'ensemble de nos concitoyens, tous âges, soient protégés. La protection, ça peut venir de la vaccination, mais ça peut aussi venir, il ne faut pas l'oublier, du fait d'avoir eu l'infection au préalable. Mais ça implique, en termes de vaccination, de vacciner probablement 85-90% des adultes et des adolescents. Donc il reste encore beaucoup de marge et d'efforts à accomplir pour arriver à ce résultat. Il reste des personnes qui ne sont pas très enclins à se vacciner, donc le danger c'est qu'on n'arrive pas à les convaincre. Maintenant, il y a peut-être quelque chose de plus important dans l'immédiat, c'est qu'il y a une fraction de nos concitoyens qui en fait n'ont pas un accès facile à la vaccination. Par exemple, des personnes très âgées à mobilité réduite, les personnes en situation de précarité. Et ces personnes-là, il faut aller vers elles pour les vacciner permettra aussi de gagner des points vers cette fameuse immunité collective.
Le professeur Alain Fischer avec Sandy Dauphin. La menace d'une pollution au fioul lourd des plages corses s'éloigne. La nappe d'hydrocarbures dérive vers le Narge où des navires de la marine effectuent des opérations de récupération des hydrocarbures. La nappe est très morcelée, mais il faut rester prudent. La situation peut changer en fonction des courants. Une pollution très certainement due au dégazage d'un tanker. Annick Girardin, ministre de la Mer, estime qu'il y a un risque de retrouver des boulettes de fioul sur les plages.
C'est un acte malveillant. Tout ça, sans doute, pour économiser quelques milliers d'euros. Ce sont donc des voyous de la mer. Moi, c'est comme ça que je veux les qualifier. Et donc, à ce jour, c'est plus de 4 tonnes de polluants qui ont été ramassés. Et c'est vrai que les vents de terre, les courants font que peut-être, et ce sera tant mieux, le littoral corse sera épargné. Les opérations en mer se poursuivent. La difficulté, c'est qu'effectivement, elles coulent. Donc, il y a des répercussions, bien sûr, au fond. Et ça, c'est déjà un premier dégât. Hein. Et donc, on a des herbiers magnifiques qu'il faut préserver. Et puis, le littoral corse, il y a le risque, quand même, dans les jours à venir, et même peut-être cet été, de retrouver des boulettes qui arriveraient sur le littoral parce que eh bien, la température s'est réchauffée et c'est remonté à la surface et ça revient. Donc, il faut rester vigilant. Surtout dire à nos auditeurs que s'ils trouvent des boulettes qu'ils appellent les services de l'État, de manière à ce qu'ils puissent être ramassés avec des équipements conformes.
Annick Girardin, ministre de la Mer avec Solène Cressan. Un candidat noir aux élections départementales victime hier de propos racistes sur un marché de Limoges. Omar Diawara a porté plainte alors qu'il distribuait des tracts. Un individu s'est avancé en tenant donc ses propos racistes. Il a également proféré des menaces de mort. L'agresseur a aussi soutenu qu'Omar Diawara n'avait pas le droit de se présenter en raison de sa couleur de peau. Omar Diawara annonce ce matin qu'il se retire provisoirement de la campagne. En bref encore, le chef d'état-major des armées, le général François Lecointre, va quitter ses fonctions. Il sera remplacé par l'actuel chef d'état-major de l'armée de terre, le général Thierry Bucard, annonce ce matin de l'Élysée. Puis le complotiste français Rémi Daillé, expulsé de Malaisie, il est attendu en France demain, lundi. Rémi Daillé est soupçonné d'avoir contribué à l'enlèvement de la petite Mia. Il avait été arrêté fin mai en Malaisie en situation irrégulière. Son visa avait expiré. L'actualité à l'étranger, 24 heures après le vote, l'Algérie attend donc les premiers résultats des législatives. Un scrutin qui a été boycotté par le mouvement de contestation du Irak et une partie de l'opposition en direct d'Alger. On retrouve notre envoyé spécial, Christian Chéneau. Bonjour Christian.
Bonjour.
Alors le principal enjeu concernait la participation et les Algériens ont boudé les élections.
Oui, un raz-de-marée abstentionniste, c'est le titre qui barre la une du journal La Liberté. Participation faible dans les centres urbains et boycott massif en Kabylie, résume de son côté le quotidien El Watan. Très peu de mobilisation à Alger. Hier, dans certains quartiers du centre de la capitale, nous avons vu des urnes complètement vides 2 heures après l'ouverture des bureaux de vote. Finalement, les autorités ont annoncé un taux officiel de participation de 30,20%, soit un recul de 5 points par rapport au précédent scrutin de 2017. Mais pour le pouvoir algérien, l'abstention n'est pas un problème. Comme l'a expliqué le président Tebboune, le taux de participation ne m'intéresse pas, a dit le président algérien. Son objectif est de continuer à dérouler sa feuille de route, même dans l'indifférence générale, avec comme prochaine étape la formation d'un gouvernement et des élections locales d'ici la fin de l'année. La seule chose qui compte, nous disait hier Amar Belimer, le porte-parole du gouvernement, eh bien c'est le respect des règles légales, garante selon lui de la stabilité du pays. Mais aujourd'hui, le président Tebboune se retrouve dans une impasse totale, avec un casse-tête politique à résoudre. Comment gouverner un pays de 45 millions d'habitants avec une défiance aussi massive?
Christian Chéneau avec Arthur Gerbault en direct d'Alger. Merci, invité de ce journal. Kader Abderrahim, maître de conférence à Sciences Po Paris, spécialiste du Maghreb et de l'islamisme et auteur de Géopolitique de l'Algérie, paru aux éditions Bibliomonde. Bonjour Kader Abderrahim.
Bonjour.
Alors, à peine 30% de participation, on vient d'entendre Christian Chéneau, le score le plus faible depuis au moins 20 ans pour des législatives. Quel signal cela envoie-t-il, Kader Abderrahim?
Écoutez, je ne suis pas sûr que ce soit une information, mais plutôt une indication, tant la défiance est importante à l'égard de ce régime politique, et les Algériens viennent d'en faire hier la preuve en restant chez eux, ou en allant à la plage, je ne sais pas. Et par conséquent, ça prouve à quel point il n'y a, ce régime n'a plus aucune légitimité, puisque la défiance est aujourd'hui massive.
Mais alors, pourquoi le mouvement de contestation du Irak, selon vous, Kader Abderrahim, n'a pas participé à ces élections, alors qu'il réclame la chute du régime et du régime de Bouteflika qu'il a obtenu, l'ancien président? Pourquoi, en réclamant ce changement, et le mouvement n'a pas joué le jeu des élections législatives?
C'est vrai que le Irak, s'il a beaucoup de qualités, n'a pas permis l'émergence de personnalités ou de porte-parole à même de porter les revendications collectives de ce mouvement populaire. Et puis, rappelons quand même le contexte. La veille du scrutin, il y a eu encore trois personnalités qui ont été arrêtées, dont deux journalistes, ce qui tendrait à prouver que à l'intérieur même du Sérail, toutes les tendances qui aujourd'hui se battent, se bagarrent, pour parler de manière triviale, ne sont pas d'accord entre elles. Donc il y a des milliers de poursuites judiciaires, il y a plus de 220 détenus d'opinion. C'est dans ce contexte que ce scrutin s'est déroulé. Est-ce qu'il fallait participer ou pas, dans la mesure où les partis politiques sont très discrédités, dans la mesure où on n'a pas entendu de débat sur le projet, ni du gouvernement d'ailleurs, ni même de la part des candidats. Et puis, comme par miracle, l'apparition massive de candidats indépendants, dont on se demande bien quelle est leur indépendance à l'égard du régime, et quel courant ou quel projet est-ce qu'ils vont porter une fois à l'Assemblée nationale.
Alors, Kader Abderrahim, les résultats seront connus dans 4 jours, 96 heures, a dit le gouvernement. Un gouvernement, comme on l'a entendu par Christian Chesneau en direct d'Alger, qui en fait se moque du taux de participation. Qu'est-ce qu'il va se passer la semaine prochaine, mardi? Quelle va être la nouvelle Algérie issue de cette feuille de route du président Tebboune? Elle va ressembler à quoi, la nouvelle Algérie?
Écoutez, je vous trouve bien optimiste. Malheureusement, c'est pas une Algérie nouvelle. C'est la poursuite, comme dirait Clausewitz, par d'autres moyens pour un régime de se maintenir. Et par conséquent, c'est pas du tout une Algérie nouvelle qui émerge. Il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de nouveau contrat social entre la population et ses dirigeants. Par conséquent, le roi est nu et l'impasse politique est totale. Probablement, ce sera une chambre sans majorité, ce qui va permettre à l'exécutif de gouverner selon son bon vouloir, sans tenir compte projets, des idées, des propositions éventuelles qui auraient pu émerger de cette nouvelle assemblée. Et donc, je crois que surtout que la question va se poser pour des pays partenaires de l'Algérie, notamment je pense à la France ici. Que va-t-on faire? Alors, je rappelle qu'au mois de décembre dernier, dans une interview avec Jeune Afrique, le président de la République, Emmanuel Macron, avait parlé de soutien au président Tebboune parce qu'il incarne la transition. Or, on voit là maintenant, depuis plusieurs mois, avec cette répression massive, des médias qui sont totalement fermés, des journalistes emprisonnés, des dirigeants politiques poursuivis, qu'il n'y a pas de transition, il n'y a même pas le début du commencement d'un dialogue. Et comme le président de la République l'a dit lui-même hier, il se moque du taux de participation, ce qui est une claque terrible à 40 millions, un peu moins, d'électeurs qui se déplacent ou pas. Mais en tout cas, le régime est autiste parce qu'il ne veut pas entendre le cri de la société et cette colère qui émerge du pays.
Merci beaucoup, Kader Abderrahim, spécialiste du Maghreb et de l'islamisme. Merci à vous. Une journée qui pourrait bien être historique en Israël. Après 12 années de pouvoir, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, est sur le point de quitter ses fonctions, la Knesset. Le Parlement israélien doit entériner une nouvelle coalition du changement lors d'un vote de confiance aujourd'hui. Nouvelle coalition, nouveau gouvernement et nouveau premier ministre. En direct de Jérusalem, on retrouve notre correspondant Frédéric Mettezo. Bonjour Frédéric.
Bonjour à tous.
C'est donc la fin d'un règne record pour Netanyahou.
Bibi, bye bye, l'affiche noire aux lettres blanches est accrochée près de sa résidence à Jérusalem. Bibi, son surnom que lui donnent tous les Israéliens, est au pouvoir depuis 4456 jours. Mais n'oublions pas qu'il avait déjà occupé le poste entre 1996 et 1999. Plus de 15 ans cumulés, Premier ministre, c'est un record en Israël, un quasi-règne. Car Netanyahou, manœuvrier et charismatique, est connu pour centraliser au maximum les pouvoirs. En 2019, par exemple, en plus de la direction du gouvernement, il a été ministre des Affaires étrangères, de la Défense, de la Santé, des Communications, de l'Éducation, de la Diaspora, du Travail et des Affaires sociales et de l'Agriculture. C'est une personnalité qui a marqué l'histoire d'Israël. Il a enterré le processus d'Oslo, libéralisé l'économie façon Margaret Thatcher. Depuis 12 ans, il a incarné cet Israël droitisé où la religion occupe de plus en plus de poids au sein de la population juive. Son successeur attendu, Naftali Bennett, est d'ailleurs l'un de ses anciens collaborateurs, un nationaliste religieux qui porte la kippa.
Alors tout va aller très vite, quel est le calendrier de la journée, Frédéric ?
Eh bien, à 15h, le futur Premier ministre Bennett, puis le vice-premier ministre Lapid prendront la parole devant le Parlement. Ils seront suivis du futur chef de file de l'opposition, Netanyahou, 15 minutes chacun. Puis les chefs des 10 autres partis auront droit à 9 minutes chacun. Le vote d'investiture du futur gouvernement est prévu vers 18h. Il se réunira 2h plus tard.
Frédéric Mettezeau, merci, en direct de Jérusalem. On va revenir sur l'image glaçante et les instants d'effroi hier après-midi durant le match Danemark-Finlande de l'Euro de football. Le joueur danois Christian Eriksen s'effondre, victime d'un malaise cardiaque en plein match. Le stade et les téléspectateurs passent de l'angoisse au soulagement. Le joueur danois a été réanimé et conduit à l'hôpital où il est toujours ce matin dans un état stable. Au lendemain de ce malaise cardiaque de Christian Eriksen, le professeur François Carré, cardiologue et médecin du sport au CHU de Pontchaillou à Rennes, salue les réflexes immédiats des autres joueurs et des secouristes.
Aujourd'hui, on demande à ce que dans les équipes, il y ait des joueurs qui se forment aux gestes de secours, même dans les plus petites équipes. Donc effectivement, ils ont eu les gestes, les réflexes immédiats, ce qui prouve que c'est ça. De toute façon, on a moins de 3 minutes pour intervenir, sinon c'est trop tard.
Ces formations au premier secours, il faut les généraliser à tous les sportifs, qu'ils soient amateurs ou professionnels ?
Oui, je pense que tout le monde devrait le faire et j'irai même plus loin, c'est à la population, puisqu'il y avait une étude en France qui a montré que si vous avez une population formée aux gestes de secours, vous avez 44% de survie, alors que dans les régions, les départements où les gens ne sont pas formés, il y a 4% de survie.
Mais est-ce que tout le monde, tout sportif peut être potentiellement concerné ?
Dans l'absolu, oui, puisque c'est pas le sport qui crée la maladie, c'est le sport qui la révèle. Et tout le monde peut être concerné. On est sur un sujet sur 200 000. C'est extrêmement rare.
Le professeur François Carré avec Jules De Kies. L'Euro de football 2021, encore avec un pays qui n'avait pas de nom officiel il y a encore quelques mois. La Macédoine du Nord effectue aujourd'hui ses grands débuts dans une compétition internationale face à l'Autriche dans le cadre donc de cette compétition Euro 2021. L'occasion pour cette société multiculturelle de 2 millions d'habitants de s'unifier autour du sport et de surmonter des divisions ethniques. À Skopje, Louis Cellier.
Habitué des gradins du stade national de Skopje, Miki Milenkovski se prépare pour son premier championnat d'Europe. Ce supporter de 44 ans est fier des rouges et jaunes.
Ils jouent ensemble depuis des années et il y a vraiment une bonne ambiance au sein de l'équipe. Les questions de nationalité n'y ont pas leur place. Seule l'équipe compte, celle de la Macédoine.
À l'image de la société, l'équipe de Macédoine du Nord est multi-ethnique, composée de Slaves macédoniens, d'Albanais et même d'un Turc.
Le sport a toujours été le meilleur ambassadeur du pays et les bons résultats de l'équipe nationale permettent d'unifier le pays.
Surmonter les divisions, ce n'est pas toujours facile en Macédoine du Nord. Jeune Albanais de Tetovo, Arbin Adulaj, ne soutient pas l'équipe nationale.
Moi, je ne trouve pas que cette équipe soit vraiment multiethnique, car son hymne ne représente pas les Albanais et les couleurs du maillot de l'équipe non plus.
Un avis tranché que ne partage pas Endrit Miftari, un étudiant en graphisme de Skopje.
Cela n'a pas de sens parce qu'on habite ici, en Macédoine, et moi je suis fier de cette équipe. Parce que dans l'équipe, il y a aussi des Albanais, il n'y a pas que des Macédoniens. Et il faut que ça reste du sport et que les questions politiques ne s'infiltrent pas dans le sport.
Petit poussé de la compétition, les Rouges et Jaunes de Macédoine du Nord comptent bien créer la surprise dès aujourd'hui pour leur premier match face à l'Autriche. Louis Seyé, Skopje pour France Inter.
Tennis avec la finale homme cet après-midi. Novak Djokovic, numéro 1 face au grec Stefanos Tsitsipas, numéro 5 mondial à Roland-Garros. En direct, on retrouve Fabrice Abgral. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
C'est donc un choc inédit, un choc de génération.
Novak Djokovic, en effet, a 34 ans. Stefanos Tsitsipas, 22 ans. Il est l'un des joueurs symboles de cette nouvelle génération. Stefanos Tsitsipas dispute sa première finale en Grand Chelem et il peut devenir aujourd'hui le premier grec à inscrire son nom au palmarès d'un tournoi majeur. Novak Djokovic, lui, va jouer sa 29e finale en Grand Chelem, la 6e porte d'Auteuil où il ne s'est imposé qu'une seule fois. C'était en 2016. Eh bien, 5 ans après, il se voit donc offrir l'occasion de soulever pour la 2e fois la Coupe des Mousquetaires. S'il y parvient, il remportera son 19e titre du Grand Chelem, ce qui veut dire qu'il ne serait plus qu'à une longueur du record absolu détenu par Roger Federer et Rafael Nadal.
C'est donc une finale qui pourrait bien être historique cet après-midi pour Djokovic.
C'est vrai, s'il remporte un deuxième titre à Roland-Garros, il deviendra le premier joueur de l'histoire à avoir remporté au moins deux fois les quatre tournois du Grand Chelem. Federer n'a remporté qu'une fois Roland-Garros et Nadal, par exemple, n'a remporté qu'une fois l'Open d'Australie. Ce n'est pas encore fait pour Djokovic, mais le Serbe partira avec la faveur des pronostics face à Tsitsipas. Ce sera leur 8e confrontation. Djokovic s'est imposé à 5 reprises, dont une fois en Grand Chelem. Eh bien, c'était l'année dernière, ici même à Roland-Garros, en demi-finale. Il y a toutefois une interrogation sur Djokovic. Aura-t-il récupéré physiquement des efforts fournis vendredi en demi-finale face à Nadal? Et mentalement, n'a-t-il pas perdu trop d'énergie dans ce match d'anthologie? Difficile de répondre à ces deux questions, mais Tsitsipas pourrait en profiter dans cette finale au parfum de passation de pouvoir.
Fabrice Abgral, en direct de la Porte d'Auteuil. Merci. La météo pour cet après-midi et pour demain.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir vos véhicules. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, les experts Euromaster sont partout au service de votre sécurité.
Jean-Michel Goulinski.
Pratiquement que du plein soleil cet après-midi, seuls les massifs du sud verront se développer des cumulus de beau temps. À noter un mistral et une tramontane vers 60 km à l'heure et des températures particulièrement élevées sur le Languedoc-Roussillon et la basse vallée du Rhône jusqu'à 37 degrés. Il fera 33 à 35 sur la Nouvelle-Aquitaine, 32 en Dauphiné, 30 de l'intérieur de la Bretagne au bassin parisien sur le centre et la Bourgogne, 22 à 24 sur les plages de la Manche et 25 à 27 des Hauts-de-France à l'Alsace. Demain, la barre des 30 degrés sera atteinte dans le nord-est et au nord de la Loire. Dans la moitié sud, il fera fréquemment entre 33 et 35 degrés. Le changement viendra des orages éclatant l'après-midi sur les Pyrénées et débordant dans les plaines du sud-ouest en soirée et du risque d'averse aux heures les plus chaudes sur les Alpes, le sud du Massif central et la montagne corse.
Jean-Michel Goulinski de Météo France.